Emmanuel Mounier, qu'est-ce que le personnalisme? Nous voici maintenant au point. Ce qui rend à certains le personnalisme insaisissable, c'est qu'ils y cherchent un système, alors qu'il est perspective, méthode, exigence. Comme perspective, à l'idéalisme et au matérialisme abstrait, il oppose un réalisme spirituel, effort continu pour rejoindre l'unité que ces deux perspectives disloquent. Le destin de l'homme y est pris sous toutes ses dimensions, matérielle, intérieure, transcendante. L'appel à la plénitude personnelle, pointe et instrument de l'histoire universelle, n'y est pas séparé de l'appel de l'humanité comme tout. Aucun problème n'y est pensé sans cette double référence. L'histoire de l'homme y apparaît comme une concurrence dramatique entre ces divers points de vue, la crise perpétuelle d'une dialectique montante, d'unification et de perfection. Cet optimisme tragique s'oppose également à l'optimisme ingénu de la bourgeoisie ascendante et à l'irrationalisme sceptique de la bourgeoisie décadente. Comme méthode, le personnalisme refuse à la fois la méthode déductive des dogmatiques et l'empirisme brut des réalistes. Notre destin immédiat, c'est d'avancer dans l'histoire et de faire de l'histoire, même dans une perspective éternelle où tout ce labeur humain aurait sa fin suprême au-delà de lui-même. Aussi bien, les constantes de la condition humaine ne peuvent-elles être décrites sous la forme d'un schéma définitif qu'il n'y aurait plus ensuite qu'à appliquer sur l'action. Elles sont largement engagées dans la situation de chaque moment historique. Elles ne peuvent être regardées qu'à travers cette situation, maintenue qu'en les réinventant chaque fois avec la substance de l'actuel. Le personnaliste chrétien lui-même, si sa visée dépasse l'histoire, ne peut avancer envers elle que dans l'histoire. Et pour déterminer ses moyens, il doit interroger les possibilités de l'histoire. Quelle que soit donc notre philosophie dernière, l'intelligence de l'action ne s'éveille qu'à partir d'un engagement dans la chaîne de l'événement. La règle de l'action se compose à la rencontre d'une philosophie de l'homme, d'une analyse directe des conjonctures historiques, qui commande en dernière instance le possible et le réel. Comme exigence, enfin, le personnalisme est exigence d'engagement à la fois total et conditionnel. Engagement total, car il n'y a de lucidité valide que celle qui réalise et ne souffre pas de se laisser résoudre en simple critique. Nous avons en effet la passion de l'homme. Mais c'est pour nous une passion efficace. Nous cherchons à le comprendre pour le mieux transformer. Engagement conditionnel, car le désaccord interne de l'homme, si nous ne gardons pas fermement en main le gouvernail, fait périodiquement basculer l'équilibre de ces civilisations, tantôt vers la complaisance solitaire, tantôt vers l'étourdissement collectif, tantôt vers l'évasion idéaliste. Ce n'est pas une image de l'homme ou un rêve de l'humanité que nous proposons comme mythe, mais un travail, le travail humain à proprement parler, pris dans toute son extension. Le perpétuel rassemblement des données fondamentales de la civilisation, l'invention perpétuelle d'une synthèse qu'aucun âge ne réalise à jamais. La permanence de l'homme, c'est l'aventure. La nature de l'homme, c'est l'artifice. Assumer cette aventure, diriger cet artifice, afin que l'homme, sous des visages chaque fois inattendus, soit toujours plus homme, telle est la tâche où, pour nous, tradition et révolution dialoguent et se poussent l'une l'autre. Il n'est pas une zone de la pensée ou de l'action que cette exigence ne doive renouveler. L'éducation doit en préparer le terrain. Trop souvent réduite aujourd'hui à la distribution superficielle du savoir et à la consolidation des divisions sociales ou des valeurs d'un monde agonisant, elle doit briser avec ses cadres morts pour élaborer une formation de l'homme total, également offerte à tous, laissant chacun libre de ses perspectives dernières, mais préparant à la cité commune des hommes équilibrés, fraternellement préparés les uns avec les autres et au métier d'homme. La culture occidentale est devenue un héritage inerte entre les mains d'une classe sociale qui n'en garde que la jouissance, sans en renouveler les sources. Elle doit être revivifiée par de nouvelles élites de souche populaire qui lui rendront l'authenticité et la fécondité. Vie personnelle, vie privée, vie publique, sans se confondre dans une vulgarisation générale de toute existence, doivent à la fois offrir à tous leurs diverses possibilités d'enrichissement. Et, cessant de s'empoisonner chacune à l'intérieur de leur cloison, avec leur propre venin, se fortifier mutuellement par leur communication. Ainsi, la vie individuelle n'apparaîtra plus comme le refuge de l'égocentrisme et comme le luxe d'une classe. La vie privée, et notamment la famille, s'ouvriront sur l'aire du large, en restant la zone d'épreuve de l'humanité de chacun. La vie publique se gonflera des sucs qui lui viendront d'être plus achevée en plénitude. À la longue, l'unité du genre humain doit, tout en se diversifiant à l'infini, résorber toutes ses cassures mortelles. Intellectuel manuel, ville-campagne, privé-public, action-contemplation. Nous n'avons pu exprimer toutes ces exigences de ce qu'on appelle parfois la révolution spirituelle sans les appuyer à des considérations de structure qui relèvent d'une révolution proprement politique et économique. Le personnalisme, en effet, considère que les structures du capitalisme se dressent aujourd'hui en travers du mouvement de libération de l'homme et qu'elles doivent être détruites au profit d'une organisation socialiste de la production et de la consommation. Ce socialisme, nous ne l'avons pas inventé. Il est né de la peine des hommes et de leur réflexion sur les désordres qui les oppriment. Personne ne les réalisera sans ceux-mêmes qui l'ont tiré de leur propre destin. Il comporte, sous l'angle humain, deux exigences capitales. Il ne doit pas remplacer l'impérialisme des intérêts privés par la tyrannie des pouvoirs collectifs. Il faut donc lui trouver une structure démocratique, sans affaiblir la rigueur des mesures qu'il devra prendre pour installer et défendre ses premières conquêtes. Par ailleurs, il est nécessairement conduit, dans nos civilisations industrielles, par l'élite organisée des travailleurs. Mais nos sociétés étant des sociétés de structure complexe, il doit chercher, autour de ce noyau directeur, à grouper un aussi large consentement que possible. Aussi bien, le personnalisme, qui eut sans doute été libéral en 1789, nous commande aujourd'hui de dénoncer et de combattre toutes les mystifications que la peur sociale pourrait combiner sous son étiquette et de nous attacher résolument au combat de cette démocratie populaire dont l'Europe cherche aujourd'hui les voies. Dans ce combat, il a sa note à donner. Ses exigences sont de celles que la violence des tumultes révolutionnaires compromettent à coup sûr, car ce sont des exigences complexes, et les révolutions sont des poussées brutales des grandes forces élémentaires. Mais 20 siècles d'expérience historique ne doivent pas être tout de même perdus. Comme les autres, la technique des révolutions s'affine de jour en jour. Il doit être possible d'opérer l'Europe du XXe siècle sans la défigurer. C'est pour cette réussite que nous parions, pour elle que nous combattons. Ne pas compromettre les nécessités révolutionnaires par les exigences révolutionnaires, ni les exigences révolutionnaires par les nécessités révolutionnaires. Quelle que soit la manière dont un personnaliste estime devoir engager aujourd'hui ce combat, cette liberté relative d'insertion ne doit laisser aucun doute sur le sens et sur le point d'application du combat. Et si nos idéaux venaient par malheur à divorcer de nos frères de lutte, c'est avec nos frères de lutte que nous marcherions à leur réconciliation, car les idées ne sont rien sans les hommes qui, seuls, peuvent les nourrir.